grande lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer, pour éventuellement vous donner envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous, en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Et bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'adresse à vous tous les deux en même temps. Je crois qu'aujourd'hui, vous nous avez choisi un livre qui n'est pas très rigolo.
Alors, rigolo, ça veut dire quoi, ça ?
Rigolo, marrant, on se bidonne à toutes les pages.
Bon, eh ben, c'est comme ça, c'est l'émission, on est capable de lire du Chalandon, on est capable de lire plein de choses. C'est la qualité qui compte. Des fois on rit, des fois on pleure.
Ah, je regarde Catherine en même temps qu'elle parle et je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, c'est la qualité qui prime.
Bien, on peut en savoir plus ? De quel livre s'agit-il ?
Oui.
Alors là, c'est moi qui cause.
C'est-à-dire que j'ai quand même pas fini, parce que j'ai dit que c'était pas drôle, peut-être, mais c'est intéressant de savoir ce que c'est.
Eh ben, c'était ma question.
Il s'agit du Lambeau de Philippe Lançon, qui est donc paru aux éditions Gallimard en 2018. Et oui.
Oui, c'est du lourd.
C'est du lourd.
C'est du lourd.
Ben oui, et pourquoi c'est du lourd, hein,
Hervé ? C'est du lourd parce que ça parle de l'attentat du journal Charlie Hebdo au journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Voilà. Et puis je vais ajouter que comme je n'ai pas trop envie à l'avance de parler à la place de Philippe Lançon, eh ben, je propose de démarrer tout de suite. Le 7 janvier 2015, vers 10h30, il n'y avait pas grand monde en France pour être Charlie. L'époque avait changé et nous n'y pouvions rien. Le journal n'avait plus l'importance que pour quelques fidèles, pour des islamistes et pour toutes sortes d'ennemis plus ou moins civilisés, allant des gamins de banlieue qui ne lisaient pas aux amis perpétuels des damnés de la terre, qui le qualifiaient volontiers de raciste. Nous avions senti monter cette rage étroite qui transformait le combat social en esprit de bigoterie. La haine était une ivresse, les menaces de mort habituelles, les mails orduriers nombreux. Il m'arrivait de tomber sur un kiosquier, généralement arabe, qui prétendait ne pas avoir reçu le journal avec un air mauvais qui semblait revendiquer le mensonge. Insensiblement, l'atmosphère changeait. Il est arrivé un moment, sans doute après l'incendie criminel de 2011, où j'ai cessé, non sans honte, d'ouvrir Charlie dans le métro. Nous attirions les mauvais sentiments comme un paratonnerre, ce qui ne nous rendait, je l'admets, ni moins agressifs ni plus intelligents. Nous n'étions pas des saints et nous ne pouvions tenir les autres pour responsables du fait que l'état d'esprit de Charlie était périmé. Au moins nous le savions et ne cessions pas d'en rire. Un soir, Charb m'avait dit dans un restaurant auvergnat, qu'il affectionnait, « Si nous commençons à respecter ceux qui ne nous respectent pas, autant fermer boutique. » Puis nous avions continué à boire du rouge en mangeant de la viande et en disant « Merde aux religions et à la grande peur des bien-pensants que nous sentions mentés. » Depuis que nous n'éprouvions plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, la conférence du mercredi était d'ailleurs redevenue ce moment libre et convivial qu'elle avait cessé d'être à la fin des années Val et pendant la crise qui avait suivi son départ. Bernard Maris a commencé à dire tout le bien qu'il pensait de « soumission ». Houellebecq était devenu un ami et l'affection s'ajoutait visiblement à l'admiration qu'il éprouvait pour lui. J'ai soudain eu envie d'aller aux toilettes, mais je me suis retenu, la conversation s'animait. Cabu a râlé. « Houellebecq, c'est un réac !» Je ne connaissais pas encore le vilain texte que l'écrivain lui avait consacré bien des années plus tôt, et je me demande encore si Cabu l'avait lu, s'il s'en souvenait. Mais je sais qu'il n'avait pas lu « Soumission ». Bernard et moi étions les seuls à l'avoir fait. Et nous fûmes les seuls à le défendre. La plupart des autres se taisaient ou l'attaquaient. Quoi ? Ce que Houellebecq attaquait presque systématiquement, c'était bien tout ce pour quoi Charlie avait lutté dans les années 70. La société libertaire, permissive, égalitaire, féministe, antiraciste. Son roman là-dessus était clair. L'islamisme sans violence, au fond, ce n'était pas si mal. Ça remettait les hommes et les femmes à leur place, et si ça ne nous délivrait pas du mal, ça nous débarrassait au moins de l'angoisse d'être libre. Il avait su donner forme aux paniques contemporaines. Charlie est l'un de mes deux journaux, ai-je pensé, mais le bon romancier a toujours raison puisque c'est lui qu'on lit et qu'on lira. Je crois donc bien l'avoir faite avec Bernard Maris, cette explication de texte, cette défense et illustration de Welbeck sous le regard clair et tendre de Sigolène Vincent, dont la bienveillance me rassurait. Était-elle venue ce matin, elle, plus légère qu'un fan, sur sa grosse Harley Davidson ? Je ne l'avais pas vue dans la rue lorsque j'avais attaché mon vélo. Bernard parlait, je parlais, Cabu maugréait, Volinsky dessinait en souriant. Il inventait des créatures assez belles, assez sexy, pour lui dire librement et insolemment tout ce qu'il aurait voulu dire et entendre. La beauté a de ses privilèges. Je ne sais plus comment ni par qui la discussion est passée du roman de Welbeck à l'état des banlieues. Mais j'imagine que les musulmans nous ont fourni une transition naturelle. Comment en est-on arrivé là ? A demandé quelqu'un. Comment a-t-on pu laisser dériver des populations entières de cette façon-là ? C'est Ignus, je crois, qui s'en est pris à la gauche et aux politiques menées depuis 30 ans. Bernard Maris a aussitôt réagi. « Mais non, c'est pas la faute de l'État. On a déversé des tonnes de fric sur les banlieues. On a tout essayé, tout, et rien n'a marché. » Ignus a haussé le ton. Il a parlé de la banlieue d'où il venait. Montreuil et de ses amis d'enfance. Plusieurs d'entre eux étaient morts, en prison ou détruits. « Moi, a-t-il tonné, je m'en suis sorti, mais eux, qu'est-ce qu'on a fait pour eux, pour qu'ils aient une chance ? Rien, on n'a rien fait. Et on continue de ne rien faire pour les suivants, pour tous les mecs qui n'ont ni boulot ni rien, qui zonent dans les cités et qui sont condamnés à devenir ce qu'on en fait. » Des islamistes, des fous furieux. Et ça, viens pas me dire que l'État a tout fait pour eux. Il n'a rien fait du tout, l'État. Il les laisse crever. Il s'en fout depuis longtemps. Bernard s'est tu et j'ai pensé qu'il était temps de partir. Again, to the fire.
Bien, tu viens de parler de Ségolène Vincent. Il faut que tu nous précises qui est Ségolène Vincent.
Oui, Ségolène Vincent, oui, je me doutais que tu allais poser la question. C'est une romancière et donc elle était chroniqueuse pour Charlie Hebdo.
Et elle, elle n'est pas morte?
Non, elle a été épargnée par l'un des frères Kouachi qui lui a dit « Calme-toi, je ne te tuerai pas car tu es une femme. On ne tue pas les femmes. Mais ce que tu fais, c'est mal. » Mais donc... Je t'épargne.
Mais
tu liras le Coran.
Ah. Oui. Donc, tu as commencé à citer un certain nombre de personnes, mais tu ne les as pas précisé qui était Philippe Lançon.
Bah, Philippe Lançon, c'est un écrivain et journaliste qui travaillait à la fois au journal Libération et à Charlie Hebdo. Voilà pourquoi, à un moment donné, il dit « j'ai deux journaux ». Effectivement, l'autre, c'est Libération.
Voilà. Et il travaillait en 2015 au journal.
Et ben, au moment de l'attentat, il était donc en conférence de rédaction à Charlie.
Il était présent le 7 janvier 2015.
Tout à fait.
Il y a eu pas mal de morts, hein, si je me souviens bien.
12, pour être exact.
Ouais. Il y avait Cabu, il y avait Charb, il y avait Tignous, il y avait Volinsky, oui, Bernard Maris, qui était chroniqueur en France Inter, entre autres.
Tout à fait.
Et puis les autres, ben, j'ai pas retenu le nom de tout le monde.
Bah parce qu'ils étaient, étaient moins connus que ceux que tu viens de citer, quoi. Mais effectivement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait donc cette Ségolène Vincent, tu vois, on ne connaissait pas le nom, mais pourtant elle était là. Il y avait une personne chargée de la maintenance du bâtiment et qui se trouvait là uniquement pour faire son boulot, mais qui est morte, tout simplement. Il y avait un correcteur, il y avait un policier, il y avait quelques invités. Voilà.
Un policier qui était en charge de la sécurité.
Oui, de la protection des lieux, puisqu'il recevait des menaces.
Oui, et de Charb en particulier, je crois.
Et de Charb.
Ouais, ouais.
Donc, le contexte était particulièrement lourd quand même. Hein. Voilà. Le livre n'a pas fait parler de lui que pour le contexte.
Non. C'est un livre qui a obtenu un prix, le prix Fémina.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour présenter le bouquin?
On peut dire...
un peu plus.
On peut parler... Ah ben, décidément, on peut parler un peu plus de Philippe Lançon, si tu veux. D'extrêmement diplômé. Il est titulaire d'une maîtrise en droit. Il est écrivain pour avoir publié plusieurs livres, et il a été plusieurs fois primé, dont donc le prix Fémina. Et il était également journaliste au journal Libération. Voilà.
Bref, c'était pas n'importe qui.
Et son livre, on peut difficilement... Il faut le dire hein, quand même. C'est un livre qui est lourd, qui est gros, qui est important et qu'il est difficile de lire d'une seule traite.
Oui, oui. Effectivement. C'est quand même...
Tu l'as lu, Dominique.
C'est chargé, oui.
Ouais, tu l'as lu, Dominique.
Pas, oui, ça se lit pas comme...
Tu me disais ça avant l'émission. Et tu ne l'as pas lu d'une seule traite, je suppose.
Non.
Tout à fait.
On continue un peu. Qui continue à lire?
C'est Catherine qui va s'y coller. Oui, exactement. Et dans ce deuxième extrait, vous allez découvrir, je parle aux auditeurs, là, que l'empreinte carbone de Philippe Lançon devait être très mauvaise à l'époque. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas encore.
On ne s'en préoccupait pas autant.
Exactement.
Effectivement.
J'ai écrit à Gabriella que Princeton avait confirmé mon poste et que j'avais pris mon billet d'avion. J'ai écrit à une éditrice que j'aurais aimé rencontrer à New York, l'écrivain Akhil Sharma. Il publiait un roman « Notre famille » dont le début me plaisait et que je n'ai jamais fini de lire. Plus tard, entre les blocs et les soins, entre la morphine et les insomnies, je me suis souvent fait le récit dérivant de cet entretien. Je rencontrais l'écrivain dans son quartier à Brooklyn ou dans le Queens. Ça dépendait de ma rêverie. Nous buvions du thé, nous parlions de l'Inde où il était né et où je n'étais pas retournée depuis longtemps. Nous parlions d'immigration et de littérature comme de compagnes idéales, même si elles étaient généralement séparées. Nous allions marcher dans le quartier new-yorkais de son enfance. J'y retournais plus tard dîner avec Gabriella, qui raffolait de la cuisine indienne. Je détaillais les plats, les odeurs, les lieux, les serveurs, nos discussions. Il m'arrivait de finir en Inde avec Gabriella, à Bombay ou à Madras plutôt qu'à Delhi. Quand c'était à Madras, on s'embrassait dans le petit aquarium qu'avait décrit Henri Michaux et que pour cette raison j'avais visité. On le faisait de préférence devant l'un de ces tétrodons qui, d'après lui, avait l'air tellement rembourré, gonflé, sans forme, espèce d'outre. « Tu leur ressens, me disait-elle, puisque j'étais défigurée, et on riait. » Le mystérieux Akhil Sharma n'a pas été le seul à occuper des bouts de vie que je n'ai pas eus. J'imaginais régulièrement les différentes rencontres que j'aurais faites à Cuba si j'avais échappé à l'attentat. Après un long séjour en France, mon ancienne belle-mère était retournée à La Havane, où elle vivait, une semaine plus tôt, et elle avait insisté pour que je l'y accompagne. J'étais tentée. Mais la perspective de rejoindre Gabriella à New York m'avait fait renoncer. Je comptais aller à Cuba en reportage pour Libération le mois suivant. Je n'y suis depuis jamais retournée. L'éditrice m'a donné les coordonnées d'Akhil Sharma trois quarts d'heure après l'attentat. Elle ignorait encore qu'il avait eu lieu. Je n'ai pas lu son mail, enfin plutôt j'ai lu son mail une dizaine de jours plus tard. Comme tant d'autres, il arrivait d'un autre monde. J'aurais aimé finir ma vie antérieure sur des phrases un peu plus calmes, un peu plus drôles, un peu plus intéressantes, même si surtout pas définitives. Je crois pas que j'aurais aimé écrire comme si c'était la dernière phrase de ma vie. De toute façon, quand la suite survient par accident, on n'a pas le temps de préparer son costume, ses gestes et ses mots de la fin. Ces phrases anodines, plutôt méprisantes et non dépourvues d'autosatisfaction, je les ai écrites comme si la vie allait continuer. C'est pourquoi j'éprouve une certaine compassion pour celui qui les a envoyées. Ce sont les derniers mots d'un journaliste ordinaire et d'un inconscient. Écrit avant l'attentat qui se prépare pendant qu'il les écrit. Les derniers, si j'accepte un mail informant un collègue que je pensais écrire dans la journée sur un livre de jazz intitulé « Blue Note » que je venais de recevoir, ce livre, on le verra, m'a probablement sauvé la vie et j'écris ceci comme j'écris chaque jour à quelques mètres de lui. C'est mon talisman immobile. Il est un peu lourd pour m'accompagner. Mon exemplaire annoté de soumission, lui, traîné à Libération, où il a disparu. Un mail de Gabriella est arrivé au moment où j'allais éteindre mon ordinateur et elle me répondait par un seul mot. Yahoo. Il était 4 heures du matin à New York, elle ne dormait pas et à l'instant où j'enfilais mon caban et mon bonnet pour sortir, elle m'a appelé sur FaceTime. Son visage endormi et souriant est apparu dans la nuit de son appartement new-yorkais. Je le devinais dans la pénombre, légèrement éclairé par la lueur bleuâtre de son portable. J'ai senti, comme souvent, une légère douleur née de la frustration de ne pouvoir passer l'écran pour sentir sa présence, sa chaleur, son haleine, son odeur. J'aurais voulu recommencer ma nuit là-bas. Nous nous sommes dit « te quiero », nous nous sommes répétés que nous serions bientôt ensemble, puis je lui ai murmuré que j'étais en retard et que j'appellerais après le déjeuner. Elle m'a embrassée sur l'écran, il devait y avoir de la buée de son côté. J'ai éteint et je suis sortie. Je suis montée sur mon vélo et c'est alors sur les boulevards à hauteur du Monoprix où je m'arrêtais pour acheter un yaourt à boire que j'ai choisi d'aller d'abord à Charlie. Quand je suis arrivée, la conférence avait commencé. J'ai voulu prendre un exemplaire de l'édition du jour mais il n'y en avait plus et je me suis de nouveau énervée. Je suis rentrée en râlant dans la salle où tout le monde était assis. Une place m'attendait au fond entre Bernard Maris et Honoré. Je me rappelle avoir plus ou moins dit « C'est quand même incroyable, il n'y a pas assez d'exemplaires du journal pour chacun de nous le jour où il est publié, où nous devons en parler. » Charb a eu un sourire ironique et bienveillant qui signifiait « Tiens, Lançon fait son caca nerveux. » Honoré, avec sa gentillesse habituelle, a sorti de son sac l'un de ses deux exemplaires et me l'a donné. Nous étions une bande de copains plus ou moins proches dans un petit journal désormais fauché, presque mort. Nous le savions, mais nous étions libres. Nous étions là pour nous amuser, nous engueuler, ne pas prendre au sérieux un monde désespérant. J'ai eu honte de ma réaction et j'ai regardé la une.
Que vienne la nuit, que vienne l'heure où le soleil gémit. Que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Tu me dis, j'ai peur, la décennie, à l'odeur de l'incendie. À toi qui ouvre ton cœur, cette nuit, je te la souhaite infinie. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Sous nos tables de nuit sont rangés des litres d'essence. Pyromane de l'ennui, il est temps de cramer le silence. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Quand retentit minuit, brûlons nos lits et entrons dans la danse. Génération qu'on oublie, il est temps de sortir de l'errance. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Le feu nous éblouit, car cette nuit, notre vision est grande. Sens-tu venir? Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter, les cendres dispersées. Laissez-la nous gagner, laissez-la nous marquer. Laissez-la l'emporter. Que vienne l'heure où le soleil gémit, que vienne la nuit et que demeurent les sages endormis.
Bien, bien, on n'est pas encore à l'attentat.
Mais...
Vous nous faites mariner un peu ?
On n'y est pas, mais on y est aussi, hein, parce qu'on sent qu'il raconte une vie qui aurait été si.
Si, ah, exactement, si. Ouais. Donc l'attentat, voilà. Il n'est pas là encore, mais on le devine. Ouais. Et en même temps, je rajoute, je suis bien content que ça soit Catherine qui ait lu l'extrait précédent, parce que vous connaissez mon amour pour les langues étrangères, et comme je suis doué, et donc elle a dit « te quiero », et j'aurais été incapable de le prononcer. «
Te quiero »,
te quiero.
En ça, toutes les langues, tu dois savoir dire ça.
Ah oui.
Et oui, donc on a bien deviné en tous les cas que Philippe Lançon avait une vie pas banale.
Hein. Une vie de journaliste. Hein,
une vie de journaliste, oui. Ouais.
Ça dit, les autres qui sont morts avaient aussi des vies pas banales. Hein. Ouais. Les Camus, les Wolinski,
bien sûr,
les Bernard Marie, c'était un type
propre de ces gens-là. Ouais. Exactement.
Ouais. Et qui avait évidemment, qui n'avait pas que Charlie, donc qui avait une double ou triple vie avec des activités très riches.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. On a deviné aussi que sa famille est un peu dispersée. Hein. Ouais. Donc forcément, ces gens-là, ils prennent l'avion.
Eh bien, on y vient à l'attentat.
Bah oui, Dominique, tu veux l'attentat. Bah oui, oui.
Faut peut-être prévenir un petit peu les auditeurs que.
Eh ben, que la scène qui va suivre, qui va être lue par moi-même, va être extrêmement difficile. Et il faut prévenir les auditeurs que si vous avez des enfants à côté de vous, eh bien, éloignez-les de la bordure du quai. Lorsqu'on ne s'y attend pas, combien de temps faut-il pour sentir que la mort arrive ? Ce n'est pas seulement l'imagination qui est dépassée par l'événement, ce sont les sensations elles-mêmes. J'ai entendu d'autres petits bruits secs, pas du tout de bruyantes détonations de cinéma, non, des pétards sourds et sans écho. J'ai entendu une femme crier, mais qu'est-ce que... Une autre voix de femme criait encore « Ah !» Une autre voix encore poussait un cri de rage, plus strident, plus agressif, une sorte de « Ah !» Mais celle-là, je peux l'identifier, c'était la voix d'Elsa Kaya. Pour moi, son cri signifiait simplement « Mais qu'est-ce que ces connards ?» La dernière syllabe s'est étirée d'une pièce à l'autre. Il y avait de temps autant de rage que d'effroi, mais il y avait encore beaucoup de liberté. Peut-être est-ce le seul instant de ma vie où ce mot « liberté » a été plus qu'un mot, une sensation. Je croyais encore que ce qui avait lieu était une farce, tout en devinant déjà que ce n'en était pas une, mais sans savoir ce que c'était, comme un papier calque mal replacé sur le dessin qu'on a copié, les lignes de la vie ordinaire, de ce qui, dans une vie ordinaire, dessinerait une farce, ou, puisque c'était l'endroit, une caricature, ces lignes ne correspondaient plus à celles inconnues qui venaient de les remplacer. Nous étions soudain des petits personnages prisonniers à l'intérieur du dessin. Mais qui dessinait ? L'irruption de la violence nue isole du monde et des autres celui qui l'a subi. En tout cas, elle m'isola, moi. Au même instant, Sigolène croisa le regard de Charbe et elle a vu que lui avait compris. Ce n'est pas surprenant. Charbe avait peu d'illusions sur ce dont les hommes sont capables. Il n'avait aucun pathétique, aucune emphase. C'est aussi pourquoi, grimpé tel un furet sur la moustache de Staline, il était souvent si drôle. Ces deux têtes vides et cagoulées qui portaient la bigoterie et la mort, il ne lui a sans doute pas fallu les secondes de vie qui lui restaient pour comprendre de quelques minables bandes dessinées elles sortaient, pour les envisager telles qu'elles étaient avant qu'elles ne le défigurent. Déjà, je ne voyais plus rien ni personne, excepté face à moi, dos à l'entrée, à l'autre bout de la petite pièce, le silencieux Franck, garde du corps de Charbe. Il était là par mission et semblait-il par habitude. Les menaces ne détruisent la perception ordinaire de la vie que lorsqu'elles ont été fixées par les actes. De même, les gardes du corps ne paraissent servir à rien, sinon à être des accompagnateurs fantomatiques et bienveillants, jusqu'au jour où l'on aurait préféré les voir servir à quelque chose, voire à tout. J'ai vu Franck se lever, tourner la tête et puis son corps vers la porte de droite, et c'est alors, observant ses gestes, le voyant de profil dégainer son arme et regarder vers cette porte ouvrant sur je ne sais quoi, que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une farce, ni de gamin, ni même d'une agression, mais de tout à fait autre chose. Il m'était encore impossible de déterminer la nature de cette chose, mais je la sentais envahir la pièce, annoncée par les bruits et les cris, et ralentir absolument tout autour de moi et en moi, faire le vide et la suspension. Quelqu'un était entré et répandait cette chose, mais je ne savais ni qui c'était, ni combien ils étaient. Et je ne le saurais pas avant plusieurs jours. J'ai regardé Franck dégainer avec un double sentiment d'espoir et de panique, mais cet espoir et cette panique étaient ensommeillés, brumeux. Le mouvement de Franck m'accompagnait sans fin dans la chute, de manière à la retarder, pour éviter que m'arrive la suite. Mais déjà, la suite était là. J'entendais de mieux en mieux le bruit sec des balles une par une et après m'être recroquevillé, ne voyant plus rien ni personne, coincé au fond d'un caisson, je me suis agenouillé puis allongé doucement, presque avec soin, comme pour une répétition, en pensant que je ne devais pas, en plus du reste, mais quel reste, me faire mal en tombant. C'est sans doute dans ce mouvement pour pallier vers le sol que j'ai été touché, à trois reprises au moins, légèrement à distance, directement ou par balle perdue. Je n'ai rien senti et n'en ai pas pris conscience. Je me croyais indemne. Non, pas indemne. L'idée de blessure n'avait pas encore fait son chemin jusqu'à moi. J'étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux encore fermés, quand j'ai entendu le bruit des balles sortir tout à fait de la farce, de l'enfance, du dessin, et se rapprocher du caisson et du rêve dans lequel je me trouvais. Il n'y avait pas de rafale, celui qui avançait vers le fond de la pièce et vers moi, tirait une balle et disait « Allah Akbar !» Il tirait une autre balle et répétait « Allah Akbar !» Il tirait encore une autre balle et répétait encore « Allah Akbar !» Ce cri, écho dément d'une prière rituelle, est devenu la réplique d'un film de Tarantino. Il aurait été facile à cet instant de comprendre quelle fascination inspire l'abjection. De flairer comment ceux qui la justifient se sentent plus forts et ceux qui tentent de l'expliquer plus libres. Mais il était plus facile de sentir à cet instant à quel point cette abjection dépassait les discours et les raisonnements. Tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps était allongé dans l'étroit passage entre la table de conférence et le mur du fond. Ma tête tournée vers la gauche. J'ai ouvert un œil et vu apparaître sous la table de l'autre côté, près du corps de Bernard, deux jambes noires et un bout de fusil qui flottait plus qu'il n'avançait. J'ai fermé les yeux, puis je les ai à nouveau ouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort, car je faisais le mort. J'étais cet enfant que j'avais été, je l'étais de nouveau. Je jouais à l'Indien mort en me disant que peut-être le propriétaire des jambes noires ne me verrait pas ou me croirait mort. En me disant aussi qu'il allait me voir et me tuer, j'attendais simultanément l'invisibilité et le coup de grâce, deux formes de disparition. Je me croyais assez immobile et la tête baignant probablement déjà dans assez de sang pour que le tueur, en s'approchant, n'ait pas jugé nécessaire de m'achever. Je l'ai senti soutenu presque au-dessus de moi et j'ai fermé les yeux. Les ai rouverts aussitôt, comme si, pour voir quelques bouts de son corps et la suite de l'histoire, j'étais prêt à prendre le risque d'en subir la fin. C'était plus fort que moi. Il était là, comme un taureau flairant le torero immobile qu'il vient d'encorner, les jambes noires, le fusil pointé comme des cornes vers la terre, se demandant peut-être s'il fallait ou non insister. Je l'entendais respirer, flotter, hésiter peut-être, je me sentais vivant et déjà presque mort. L'un et l'autre, l'un dans l'autre, pris dans son regard et son souffle. Puis, il s'est éloigné lentement, attiré vers d'autres corps, d'autres caps, d'autres choses. En réalité, vers la sortie, comme je l'ai su beaucoup plus tard, puisque l'ensemble n'avait duré qu'un peu plus de 2 minutes. Et tout est redevenu silencieux. La paix est descendue vers la petite pièce, chassant peu à peu la menace d'une prolongation ou d'un retour des tueurs. Je ne bougeais plus, je respirais à peine. La brume se levait, je ne sentais rien, ne voyais rien, n'entendais rien. Le silence fabriquait le temps, et parmi les blessés et les morts, les premières formes de la survie.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
that ship explodes. And everybody still wants to fly. But some say man ain't happiness. Man truly dies. Oh, time. Baby, make a speech, Star Wars fly. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
C'est un peu glaçant quand même. Hein.
Ah. Bon, c'est vrai que c'est tentant d'être d'un pessimisme forcené là, hein, mais faut être honnête, c'est bien écrit.
Tout à fait. Oui,
très,
oui,
très
tout
bien
à fait.
Écrit.
Oui, oui, c'est très bien écrit.
Tout en décrivant
oui, oui.
les faits, oui, parce oui. que les faits qu'il a vécu, quoi, c'est du témoignage, mais il faut penser que c'était. Il a écrit ça en 2017-2018, donc c'est quelques années plus tard, et il est capable de raconter un événement. Majeur de sa vie avec un certain détachement, comme s'il était spectateur.
Exactement.
Et c'est glaçant, et c'est. Oui, oui, c'est glaçant parce que c'est bien écrit.
Parce que c'est calmement décrit, mais en plus.
Le détachement dont il fait preuve dans son écriture, ça permet une respiration quand même dans la lecture.
Oui, oui. Ah ben, oui on serait dans.
Nécessaire.
On se permet de voir la scène, mais on ne la vit pas. Comme eux l'ont vécu, quoi.
Bon, on a compris qu'il a été durement touché.
Et oui, au visage et au bras.
Le lambeau, le titre du livre.
C'est exactement
c'est,
ça. Là, on a compris.
Allusion à la greffe ou la reconstruction du visage qu'il va avoir.
Tout à fait. Il va passer des mois, plusieurs mois, au service de chirurgie maxillofaciale de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ça va, Catherine ? J'ai bien prononcé
bien
maxillofaciale.
Exactement.
Afin de récupérer une mâchoire fonctionnelle qui sert à parler, qui sert à manger. On peut deviner un très lourd traumatisme psychologique également, hein, car il n'est pas simple de réparer un humain, quand même, on peut le dire. Et à l'hôpital, il va être suivi par plusieurs chirurgiens c'est ce qu'on comprend en lisant le livre, par plusieurs chirurgiens. Mais il va surtout faire connaissance avec une chirurgienne qui s'appelle Chloé et qui va le suivre de bout en bout. Ce n'est pas toujours elle qui fait les opérations, mais elle va le suivre de bout en bout. Oui, exactement. Et toutes les opérations, ça va durer environ 2 ans.
Chloé a planté la petite seringue orange dans la valve en silicone qui se trouvait derrière l'oreille droite, au cœur de la zone dite rétro-auriculaire. C'était par là qu'on allait gonfler l'expandeur. Comme la peau qui aurait dû recouvrir cette valve était en voie de nécrose, j'avais l'air d'un extraterrestre ou d'un héros du genre Matrix. Vu depuis ce point d'entrée, mon squelette entier semblait bâti dans une matière moitié opaque, moitié transparente, qui aurait pu faire de moi un immortel. Un immortel, ce n'est pas forcément un dieu, ni même un héros. Ça peut être quelqu'un qui a senti toute sa mortalité et qui a le sentiment fragile de survivre à cette sensation, mais sous forme de matière plastique. Une fois de plus, je me sentais absurdement prolongée. Quelques semaines plus tôt, pour un congrès qu'elle devait introduire et qui était consacré au sourire. Le sourire, c'est important, en particulier pour ceux qui n'y ont plus accès. J'avais offert à Chloé le rire de Bergson. Finalement, elle n'avait pu aller à ce congrès et je ne sais pas si elle l'a lu. Ce que je savais, c'était que moi aussi, désormais, j'étais du mécanique plaqué sur du vivant. Mais c'était moins drôle. Je n'ai d'abord rien senti. Lentement, Chloé a injecté 20 cm3 de sérum physiologique. Le liquide a peu à peu rafraîchi le tuyau qui passait sous la peau, puis il est entré dans l'expandeur. Une légère brûlure a circulé, comme si elle était vivante, sous le menton. J'ai eu l'impression qu'un écorcheur me décollait délicatement la peau. J'ai pensé, mais quel crime faut-il avouer ? L'expandeur ou prothèse d'expansion avait été posé 2 mois plus tôt. Comme c'est souvent le cas, il avait commencé par s'infecter. Le cou est un carrefour sensible et un bouillon de culture qui n'aime guère les corps étrangers. Les bactéries avaient dû entrer par la valve. Elles s'étaient mises dans les plis de cette prothèse encore largement vide, comme dans ceux d'une bouée dégonflée. Elle avait attendu leur moment pour agir. L'infection était apparue brutalement, tandis que j'écrivais un article sur les peintures d'Arnold Schönberg. Soudain, j'ai senti une brûlure intense au niveau du cou. J'avais l'impression qu'on m'étranglait. Je me suis regardée dans le miroir. Le cou avait doublé de volume et il était de la couleur du canapé sur lequel j'étais assis, rouge vif. J'étais moins hideux ou moins inquiétant que les autoportraits de Schönberg, mais j'avais bon espoir de leur faire bientôt concurrence. La nuit fut courte et désagréable. À l'aube, j'ai fait un selfie que j'ai envoyé à Chloé. Elle m'a répondu « Pouvez-vous passer ce matin ? Il est temps de jeter un coup d'œil, je pense. » Il fallait essayer de sauver la prothèse. Depuis, j'étais sous antibiotiques et l'infection, après quelques péripéties, semblait stabilisée. Cependant, Chloé m'avait dit « De toute façon, si ça ne marche pas, on recommencera plus tard de l'autre côté. » Je l'avais regardée accablée. 2 anesthésies générales de plus et 2 nouveaux mois d'incommodité permanente, sans même parler du goitre artificiel et des soins. Mais jamais j'en aurai le courage. Mais j'ai rien dit. Les chirurgiens vivent dans un monde où tout ce qui est techniquement possible finit par être tenté. Maintenant, jour après jour, il fallait gonfler. L'objectif était une prothèse à 200 cm3 minimum pour obtenir le supplément de peau nécessaire au drapage du menton. Drapage était le bon mot. On allait tirer la peau du cou jusqu'à la lèvre inférieure et même au-delà, car la peau se rétracte comme le drap sur la barbe du capitaine Haddock. Jusqu'à cette opération, l'expandeur allait faire de moi un pélican ou un crapaud, provoquer quelques solides douleurs dans le cou et dans le dos, les unes comme des brûlures, les autres plantées comme des clous. Mais ceci est une autre histoire, également postérieure à celle que je raconte ici. La chirurgie est un livre qui n'en finit pas. Après l'injection, Chloé s'est assise en face de moi sur le tabouret pour voir comment je réagissais. C'est alors que je lui ai dit « Demain, ça fera 2 ans qu'on se connaît. » J'y pensais depuis la veille et je m'étais promis de le lui dire. J'aime pas les anniversaires, celui-ci, moins que d'autres, mais j'aurais préféré pour cette première injection qu'on soit le 7 janvier. Oui, m'a-t-elle dit, et j'ai compris qu'elle y avait pensé aussi. Vous savez ce que je faisais quand vous êtes arrivé ici ? Je lui ai répondu, Hossein m'a dit que vous étiez en train de déjeuner. Il vous a appelé et il m'a mis au frais en attendant que vous arriviez. Hossein était un jeune chirurgien de garde le 7 janvier 2015. Plus tard, il est devenu un ami. Le jour où, changeant d'hôpital, il ne s'est plus occupé du patient. Les dieux gardent leur distance, les chirurgiens aussi. Les premiers ont créé l'homme avec de la glaise, dit-on. Il y a toujours un moment où vous redevenez pour les seconds un tas de viande et d'os à refaçonner. Elle a soupiré. Celui-là, il faut toujours qu'il parle. J'avais du mal à imaginer Chloé en train de déjeuner un jour de semaine. Je ne la voyais pas autrement que debout, plus ou moins penchée sur moi, comme une déesse sur le destin d'un marin grec, mais certainement pas assise en train de manger une salade ou un couscous. Elle a continué. Je déjeunais au restaurant avec une amie, ce qui ne m'arrive presque jamais. Ah, j'avais raison. Et c'est là qu'elle m'a raconté comment cette amie lui avait offert soumission, livre qu'elle continuait de trouver prémonitoire. Était-il prémonitoire, ai-je pensé, tandis que l'infirmière plaçait le pansement sur la valve d'injection. J'ai dit à Chloé, « Vous savez que soumission a été le dernier sujet dont nous avons parlé à la conférence de rédaction ?» Il est agréable d'être compris à demi-mot par son chirurgien, surtout quand on a du mal à parler. Dans le box, un interne et deux externes nous écoutaient. L'un des externes, jeune, très brun, avec une petite barbe légère, me regardait attentivement, sans réagir à nos propos. Je me suis demandé s'il était arabe et ce qu'il pensait. C'est peut-être pour le savoir que j'ai une fois de plus répété. Ce jour-là, nous étions deux à avoir lu Soumission, Bernard Maris et moi, et nous l'avons défendu tous les deux. Ceux qui l'attaquaient ne l'avaient pas lu. C'est presque toujours comme ça. Des sourires sont passés sur les visages, sauf sur celui du jeune externe brun et barbu, toujours plus attentif et plus sérieux. Allait-il bondir dans ce box et m'égorger ? J'ai continué. Nous n'étions pas d'accord. Puis les tueurs sont entrés et ils ont mis tout le monde d'accord. Quand je parlais de l'attentat, je le faisais maintenant comme s'il s'agissait d'une farce, puisqu'après tout, c'en était une. Je n'étais pas certain que le roman de Houellebecq n'en était pas une autre. Elle avait au moins eu le mérite de ne pas tuer ses lecteurs. Il y avait peut-être d'autres moyens d'arriver au consensus, a dit Chloé sur le même ton. Nous n'avions pas eu le temps de les retrouver. Nous n'avions pas eu le temps d'avoir de l'imagination. Et maintenant, au moment où il était préférable de ne plus en avoir, il m'arrivait d'en avoir trop. Tout le monde continuait de sourire, sauf l'externe brun. L'infirmière en avait fini avec le pansement. Je me suis levée en remplissant mon ordonnance, antibiotiques, ultra-levure, doliprane, le bon vieux trio, auquel manquait cette fois l'élément ferment quatuor, la vaseline. J'en avais plusieurs tubes à la maison. Chloé s'est mise à parler en anglais avec le garçon mystérieux et inquiétant. Je n'ai senti qu'à cet instant qu'il ne comprenait pas le français. Il était syrien, dentiste. Il venait d'arriver de Damas. Il avait fui un pays où, a-t-il dit, l'avenir de chacun était loin derrière lui. Chloé m'a présenté, je lui ai serré la main, souhaité la bienvenue, comme si lui et moi étions des ministres. De quoi ? Voilà, a-t-elle dit. Maintenant, les présentations sont faites.
Eh bien, merci Catherine Hervé de nous avoir fait redécouvrir ce récit. Il y a bien longtemps que je l'avais lu, ce livre-là. Moi, c'est, je dis bien longtemps, mais en même temps, il date de 2018, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui. Oui,
donc,
oui.
J'ai dû le lire en 2019 ou 2020.
On peut rappeler, n'est-ce pas, Catherine, du coup, le titre du livre ?
Oh, mais oui, on peut le rappeler. Ça s'appelle Le Lambeau, maintenant vous comprenez pourquoi. L'auteur Philippe Lançon, et c'est publié chez Gallimard.
Il faut peut-être rappeler que nous sommes aujourd'hui au studio, alors qu'initialement, il était prévu que nous soyons à la bibliothèque de Lestiou. Mais l'enregistrement à Lestiou a été annulé parce que, semble-t-il, l'une des bénévoles qui nous avait si gentiment reçu, on peut le dire quand même, est tombée malade. Eh bien, on souhaite qu'elle se remette le plus vite possible.
Bon, ça n'est que partie remise à Lestiou.
On espère.
Très bien. Eh bien, merci Catherine, merci Hervé. Je dis au revoir aux auditeurs. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur la bande FM et réécouter ce podcast sur le site de Studio Zef. Cette émission est enregistrée mensuellement, rediffusée tous les vendredis à 14h. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.